Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. La vie des autres, les limites juridiques et morales de la liberté littéraire, avec Emmanuel Pierrat. À qui appartient la vie des autres quand elle devient la matière d'une création romanesque ou cinématographique? Ceux qui voient des épisodes de leur vie, parfois très intimes, servir de matière à une fiction, peuvent-ils légitimement se plaindre, et en particulier se plaindre auprès de la justice? Peuvent-ils se plaindre de voir leur vie volée, et cette plainte est-elle légitime? D'un point de vue légal, d'un point de vue moral, où s'arrête la liberté de la fiction? Les personnalités publiques, les acteurs de drames judiciaires, ont-ils une réelle possibilité de considérer qu'un auteur de fiction ne peut pas faire ce qu'il veut de leur vie? Merci Emmanuel Pierrat d'être avec nous pour répondre à cette question, parce que vous êtes un des spécialistes du sujet. Vous avez eu l'occasion, en tant qu'avocat, en tant qu'écrivain, de l'aborder dans de multiples circonstances. Pensez-vous que c'est un phénomène en recrudescence, c'est-à-dire que les écrivains s'inspirent de plus en plus des événements de la vie réelle, leurs proches ou des célébrités, et souvent dans un délai de temps très rapproché par rapport à la survenance des faits eux-mêmes, ou bien ça a toujours existé?
Alors on peut penser que ça a toujours existé, parce qu'il y a des affaires célèbres qui nous permettent, en dehors même de l'histoire littéraire, en prenant l'histoire judiciaro-littéraire, et par le prisme des condamnations en justice ou des victoires éventuelles des écrivains, on peut retracer un parcours à travers Jules Verne, Anatole France, Simenon même, tous attaqués, poursuivis, pour avoir débordé en quelque sorte du cadre et à s'être emparés de leurs contemporains, on va dire, les plus proches. Ça, c'est une lecture possible de dire que ça, c'est un phénomène qui a toujours existé. Il y a un deuxième phénomène, comme vous le soulignez très bien, d'accélération, qui tient à deux perspectives. Le premier, c'est qu'il y a d'abord, il y a un nombre de livres qui a triplé ou quadruplé aujourd'hui en 2014. On publie 60 000 livres par an en France, ce qui peut laisser songeur, mais ce qui mathématiquement, de toute façon, entraîne 3 ou 4 fois plus de livres et donc 3 ou 4 fois plus de procès qu'il n'y en avait eu ou de conflits qu'il n'y en avait par le passé. Et puis, ce sont des chiffres qui ont doublé en à peine 20 ans et quasiment triplé si on les ramène à une perspective de la fin des années 70. Donc, mathématiquement, difficile de penser d'un seul coup que la littérature va s'exonérer comme ça du conflit alors qu'elle publie 3 fois plus. Il y a une deuxième ligne qu'on peut regarder, c'est le télescopage dans le temps, effectivement, et l'appropriation de faits de plus en plus immédiats, instantanés quasiment, et qui sont commentés, alors que, effectivement, par le passé, on avait des phénomènes de, par exemple, d'observation des procès, par André Gide, par. Il y a des cas célèbres, hein, donc Truman Capote, etc.
Truman Capote, c'était bien après la conclusion du procès.
C'est bien après la conclusion du procès, et c'est après avoir fait une enquête en quelque sorte, ou a suivi de l'affaire, avoir rencontré les accusés, avoir parlé à tout le monde et avoir pris beaucoup de soins avant de rédiger de sang-froid. Et là, on est dans une surenchère à quel est l'écrivain qui va démarrer le plus vite sur le dernier fait divers qui a éclaté, je ne dirais pas au firmament de l'actualité, parce que ce n'est pas nécessairement le firmament. Mais,
ça laisse parfois le sentiment, d'ailleurs, à l'observateur, disons, réservé à l'égard de certains développements de la modernité, que des écrivains sont là en quête d'inspiration, en quelque sorte, et puis ils sont prêts à se jeter en pâture sur n'importe quel fait divers particulièrement croustillant ou sanguinolent qui pourra intéresser le public une fois remis ou redramatisé.
Oui, avec cette nuance que lorsque Flaubert écrit Madame de Bovary, c'est un fait divers, paru dans la presse quotidienne normande de l'époque, mais qui est une brève totalement anonymisée, où on sait vaguement qu'il s'est passé quelque chose, et il l'écrit, il la lit, il s'en empare, mais ne nomme pas. Et les noms sont très différents, le cadre est très différent, et on sait simplement par l'histoire littéraire, pas parce que des gens s'en sont plaints, on le sait par l'histoire littéraire, par le travail d'exégèse sur les manuscrits, etc., de Flaubert, que c'est ce fait divers qui l'a inspiré ou qui a pu servir de déclencheur ou d'un des déclencheurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre société oblige les écrivains et quiconque écrit à nommer ce qu'il voit. Là où Balzac disait une calèche, Christine Angot va devoir dire une Fiat.
Et oui, mais Flaubert lui nommait, hein, il nommerie.
Oui, il nommait, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis prudent dans mon rapprochement et dans les, en tout cas dans cette. Dans cette impression que les choses seraient différentes. Mais il n'y a pas de doute, en tout cas, sur le fait qu'aujourd'hui, quasiment tout est nommé. Il est très difficile, vraiment, de faire état d'une société dans laquelle on ne nommerait pas les gens, les marques, les individus. On ne parle pas d'un dentifrice, on parle d'un dentifrice précis avec une marque précise. Ça pouvait exister. La deuxième chose qui se produit, c'est que tous ceux qui sont les dentifrices, les voisins, les amours, désormais se reconnaissent parce que les moyens de connexion font que, sans être des amateurs de littérature, sans nécessairement se plonger dans les librairies tous les jours, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, Internet et beaucoup d'autres choses leur disent tout de suite « Tiens, tu es dans le roman de X ou de Y à la page 2, à la page 3, à la page 20. »
Alors là, c'est une question très intéressante. Ils s'y reconnaissent, mais le problème, c'est que d'autres les reconnaissent aussi, ce qui laisse penser qu'ils sont extrêmement reconnaissables. D'où, évidemment, leurs plaintes et leur mécontentement. Mais avant d'aborder cette question, qui est au cœur de notre sujet, du moins de sa portée morale et des questions de légitimité que nous avons essayé de poser, de qui s'agit-il ? Qui sert de matière d'inspiration ? Les personnalités connues, qui parfois n'ont aucun lien, d'ailleurs, avec l'auteur. Ou alors des intimes ?
Les deux. Et les deux mélangés. Dans Brest Easton Ellis ou des écrivains de ce type, il y a aussi bien des amis qui sont très proches de lui que tout ce que la planète peut compter de showbiz et de lumière ou pseudo-lumière. Donc, et tout ça est mêlé. Si on prend, le propos ici n'est pas de savoir ce qui fait partie de la littérature ou pas, hein, c'est plutôt pour moi de considérer tout ce qui prend l'étiquette de roman ou de fiction et qui se l'autodécerne. Mais si je prends Frédéric Becbédé, par exemple, pour un exemple qui n'est pas nécessairement le plus littéraire, mais qui est un livre de la fiction, c'est aussi bien, ou Michel Houellebecq, la plus littéraire peut-être selon un point de vue personnel, des personnages comme Jean-Pierre Pernaut, présentateur du 13h de TF1, et en même temps sa mère. Donc c'est vous, c'est moi, et c'est nos voisins et notre président de la République.
Tout ça mêlé. Parfois, ce sont des matériaux aussi, des SMS, des lettres, des documents qui sont en possession de la personne qui écrit ou auquel on a remis ces documents et qui s'en servent comme matière littéraire.
Ça, c'est vous faites référence sans doute à l'affaire qu'on appelle PPDA, donc qui Patrick Poivre d'Arvor poursuivi et condamné pour avoir utiliser les lettres envoyées par celle qui aurait été, on va dire, son histoire d'amour, et qui le poursuit non pas sur le fondement uniquement de la vie privée, mais sur le fondement de la propriété intellectuelle, qui vient lui faire un procès et qu'elle gagne pour dire non seulement ma vie privée est violée en quelque sorte parce que vous, écrivain, avez repris ce que je vous ai écrit, mais surtout, comme vous l'avez repris, c'est de la propriété intellectuelle.
Contrefaçon. Donc les chefs, quand la justice et les tribunaux se penche sur ce genre d'affaires. Quelles sont les incriminations auxquelles les tribunaux ont affaire ? C'est la contrefaçon, cas extrême, quand on réutilise les documents.
Mais l'atteinte à la vie privée, chose formidable, qui est une invention relativement récente, hein, en droit. La vie privée est une notion qui est apparue telle qu'on la comprend appliquée aux écrivains. C'est une notion qui date de début des années 70. C'est par, une volonté du président Pompidou à l'époque de vouloir lutter contre la presse dite people, qu'on appelle aujourd'hui people, que serait apparu cet article 9 dans le Code civil qui dit « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et qui dispose ensuite de moyens au profit de celui qui se sent violé dans sa vie privée, qui permet d'attaquer en référé, de demander de dommages et intérêts, des publications judiciaires, l'arrachage des pages et beaucoup de mesures toutes plus, on va dire, intéressantes et ennuyeuses les unes que les autres. Il y a ça, cette espèce de pan, et ce pan qui est très peu défini dans la loi, ce qui fait que les juges l'ont rempli, mais ne l'ont pas rempli à l'aune de la littérature, l'ont rempli pendant 3 décennies ou quasiment 4, grâce à la presse people, la presse, on va dire, à scandale, la presse de célébrités.
Des intrusions de journalistes.
Des paparazzi, pour faire simple. Et ce sont donc les critères qui ont servi pour les paparazzi qui permettent de dire que, indiquer que quelqu'un a porté un appareil dentaire est une violation de sa vie privée, indiquer qu'il est adultère est une violation de sa vie privée, indiquer qu'il a changé de sexe en est une autre, et donc c'est une espèce de grand sac dans lequel on peut tout mettre. Et ce sac, aujourd'hui, est appliqué au roman. Ce qui peut laisser une vraie question sur le cadre. On ne peut pas considérer qu'il y a un droit au roman, ça a été déjà rejeté par les tribunaux, puis ça serait assez malsain de vous pouvoir laisser une étiquette auto-décernée par des gens qui s'intéresseraient à la vie de leurs voisins et dire « je suis un romancier, donc vous ne m'attaquez pas ». Mais quand j'écris dans la presse People, ce sont parfois les mêmes, je ne serai plus sous ce même régime. C'est très difficile à cerner, cette ligne de crête. Et pourtant, il y a une vraie question à se poser sur le cadre juridique qui s'applique à la littérature ou aux œuvres d'art en général aussi.
Alors, et la diffamation, la plainte pour diffamation, elle intervient, c'est souvent
la diffamation,
aussi,
parce elle que intervient c'est un troisième choc. Elle intervient souvent, par exemple, c'est le cas en ce moment pour Régis Geoffrey et La balade de Rikers Island, c'est-à-dire un livre consacré à l'affaire Strauss-Kahn pendant États-Unis, on va dire. Et là, c'est sur le terrain de la diffamation et de la vie privée, il articule les deux, que Dominique Strauss-Kahn poursuit Régis Geoffrey, qui lui-même avait déjà été poursuivi dans l'affaire Stern précédente, qu'il avait mise en fiction dans un autre roman. Donc, ce sont globalement, si on résume, ces diffamations, vie privée, et puis on rajoutera aussi présomption d'innocence, je pense, comme élément important, oui, parce que les rapports entre faits divers, justice et littérature sont aussi sur le terrain.
Quand un procès n'est pas conclu, et ça a été le cas, par exemple, pour conviction intime, ou intime conviction, pardon, la fiction qui devait être inspiré d'une affaire où la personne avait été acquittée. Alors, juste la famille du défunt, enfin d'Edouard Stern, s'est élevée contre la publication de Régis Geoffrey avec un argumentaire qui dit, et ça va nous permettre d'approfondir les raisons qu'on oppose à cette volonté des écrivains, ce livre n'a pas pour objet de répondre aux légitimes besoins d'information du public. Reconnaissant qu'il y a un légitime besoin d'information du public sur ce qu'a été la vie d'Edouard Stern et surtout les circonstances tragiques de sa mort, mais de divertir le lecteur et de tirer un profit commercial d'un drame médiatisé. C'est pourquoi il n'a pas hésité à peindre Edouard Stern de la manière la plus dégradante, la plus monstrueuse et la plus ignominieuse qui soit. Alors ça, c'est le point de vue de la famille. Mais quand on lit ça et qu'on imagine qu'un proche pourrait être servir d'inspiration de la même façon, on ne peut pas ne pas ressentir une certaine empathie tout de même.
Non, bien sûr, mais parce que la famille aussi se place sur un terrain qui est celui défini par la loi. La loi sur la diffamation, c'est la loi du 29 juillet 1881. Elle a un petit peu de poussière sur les ailes depuis qu'elle servait véritablement. C'était une loi avant-gardiste en 1881 qui visait à donner plus de liberté aux journaux en donnant des délais de procédure très courts pour ceux qui voulaient les attaquer, etc. Donc elle a été conçue dans un contexte de libération de la presse. Et puis, aujourd'hui, elle est considérée de façon inverse par les spécialistes parce que elle est sclérosée, elle est difficile et elle rend la liberté d'expression très compliquée pour des tas de raisons liées aux mutations de la presse. La difficulté supplémentaire, c'est que la famille Stern applique cette loi sur la presse en prenant une lecture qui est faite de la diffamation vraiment dans un but d'information, etc., avec des questions d'information d'intérêt public, pour l'appliquer à une œuvre de fiction, ce qui est encore un autre registre. Donc, on peut être en empathie avec eux, se poser légitimement la question de savoir si l'œuvre de fiction a pour but d'informer le public ou de le distraire. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Alors, mais qu'il y a peut-être un mélange entre les deux, en tout cas un cadre qui n'est pas nécessairement bien assorti. Ça n'exonère pas Régis Geoffrey.
Interrogeons-nous sur ces motivations, justement. Donc, l'œuvre de fiction, évidemment pas le divertissement. Une, bon, si on reprend la théorie la plus courante de la littérature, en tout cas celle qui fut diffondue en un temps par certains, de totale autonomie de la création littéraire, c'est juste un thème d'inspiration et à partir de cela, les éléments se mettent en place d'une manière totalement libre et dont la cohérence, dont seul l'auteur peut répondre de la cohérence et qui n'a plus de contact avec la réalité. Le problème, c'est que dans la promotion de ces ouvrages, en général, le lien à la réalité sert de caution sur l'intérêt de lire le livre. On dit au lecteur, vous voulez savoir ce qui s'est passé, achetez le livre. Et là, il semble que pour certains, je ne parle pas pour tous, le fait qu'il s'agit d'une création littéraire autonome passe au second plan. Il est évident que si l'auteur disait, je ne veux absolument pas faire de rapport avec la réalité, j'ai suivi une inspiration qui a pris sa force propre et qui m'a guidée sur le chemin où elle m'a guidée, le livre aurait probablement moins de succès, en tout cas n'aurait pas le même public.
C'est une façon de regarder les choses qui me semble intéressante parce que ça renvoie l'éventuelle poursuite, entre guillemets, ou le statut de l'œuvre à ce que l'écrivain décide d'en faire. Et en gros, il y a deux écoles. Il y a une école qui pourrait être celle de Marcela Yacoub, qui consiste à publier les bonnes feuilles une semaine avant la sortie de son livre dans le Nouvel Observateur et en laissant savoir qu'elle a eu réellement une histoire, selon elle, avec Dominique Strauss-Kahn et que c'est cette histoire qu'elle raconte sous toutes les coutures. Et là, on est dans une position extrêmement publicitaire, on va dire d'utilisation de confusion des genres. Entre médias, journalisme, elle écrit une chronique dans Libération en même temps, on ne la connaît pas particulièrement pour ses romans, donc elle a fait des livres de réflexion juridique, mais donc on est vraiment dans une stratégie marketing ou publicitaire. Et puis il y a peut-être comme autre exemple très récent en librairie depuis quelques mois, le livre d'Edouard Louis qui s'appelle « En finir avec Eddie Bellegueule ». Et qui lui dit, et sur une ligne beaucoup plus prudente, consistant à dire « mais c'est à la fois mon histoire et ça n'était pas mon histoire, ce qui m'est arrivé me sert à repenser une sociologie de la littérature et il ne faut pas y voir une lecture factuelle comme l'ont fait certains journalistes en allant interroger sa famille pour savoir si ou non il avait été maltraité en Picardie dans cette famille et savoir s'il votait Front National, pas voté par Front National, si son petit frère était attardé, pas attardé, enfin bref. Et lui dit non, je ne suis pas sur ce terrain-là. Je me suis approprié
aussi que la famille d'Edouard, lui, personne ne la connaît en France, tandis que Dominique Strauss-Kahn, tout le monde le connaît.
Nous sommes d'accord. Mais ce sont deux attitudes qui sont intéressantes, parce qu'on est face à deux livres qui, par ailleurs, ont connu un certain succès, ou en tout cas...
Que je ne rangerai pas dans la même catégorie.
Non, ce n'est pas la même catégorie.
Il y en a un qui est un livre vraiment très intéressant.
Mais les deux sont publiés sous l'étiquette de roman, l'un chez Stock, l'autre au Seuil, et c'est une vraie question pour nous de savoir s'il faut les séparer véritablement ou les prendre en bloc. Il y a une attitude que moi j'aime bien, qui montre bien la complexité de cette question, qui est celle qu'avait Mathieu Lindon lorsqu'il a eu un procès pour ce qui s'appelle le procès de Jean-Marie Le Pen, qui est le nom d'un livre, d'un roman qu'il a publié chez POL. Et Mathieu Lindon disait à l'audience, au juge, vous ne pouvez pas me condamner parce que ce que je dis est réel, et vous ne pouvez pas me condamner parce que ce que je dis est de la fiction. Donc, face à Jean-Marie Le Pen qui l'attaquait, ce qui renvoie les juges au statut de ces objets littéraires touchant à des personnages connus et choisissant d'être autre chose que la narration de ce qui s'est passé ou de ce qui pourrait se passer.
Cette réponse est extrêmement subtile parce que lorsqu'il s'agit de diffamation en particulier, c'est à l'accusé, enfin à l'incriminé de faire la preuve de la vérité de ce qu'il avance. Mais à ce moment, s'il fait la preuve de la vérité de ce qu'il avance, il pulvérise le cadre de la fiction dans lequel il s'est installé. Donc c'est véritablement une réponse qui contraint toutes les possibilités.
À la fois subtile et très intéressante, parce qu'elle montre cette difficulté.
Alors revenons au problème de certaines publications, c'est que lorsqu'il s'agit de proches, mais il peut arriver dans le premier cas que vous avez évoqué, que l'ex-proche en tout cas soit également une personne extrêmement connue, et puis dès qu'il est question de certains types d'activités, suscite une gourmandise frénétique du grand public, ce que personnellement je déplore tout à fait, mais bon. À tout cela, à l'intérêt de l'histoire, à la volonté de se servir de cette histoire comme en quelque sorte terrain de déploiement de ses talents littéraires, voire la volonté d'information du public, s'ajoute aussi la volonté de vengeance et de salir une personne en exposant tous les détails de sa vie intime, sous le jour évidemment, sous le moins flatteur, devant le grand public.
C'est encore une motivation qu'on peut trouver dans la littérature contemporaine, mais aussi, alors là, pour le coup, dans la littérature d'il y a quelques décennies. J'évoquais tout à l'heure, en début d'émission, Jules Verne, il y a des règlements de compte chez Jules Verne, qui lui ont valu des procès, qui consistaient à brocarder les uns et les autres. Ou même un livre dont on n'a pas parlé, c'est Monterland, qui s'en prend à un vrai... Costal, qui est un véritable écrivaillon de conférences, poseur, etc., qu'il met directement en scène dans un rôle quasiment similaire et en appuyant encore un peu plus là où ça, ça fait mal, entre guillemets, et qui se retrouve poursuivi et qui d'ailleurs sera relaxé grâce surtout à l'excellente plaidoirie de Maurice Garçon. Mais on est là dans des règlements de compte, dans des vengeances, dans des petites vacheries, des grandes ou des petites. Est-ce que pour autant les écrivains qui participent à ça doivent être automatiquement condamnés en raison de leur esprit de vengeance? Je n'en suis pas persuadé.
Mais ça dépend sur quoi porte la vengeance. Quand il s'agit de, peut-être d'une rivalité professionnelle, ça paraît non pas acceptable, non. Mais enfin plus facilement cadrable lorsqu'il s'agit d'une incrimination d'un être humain. Et souvent quand il y a une très grande disparité de conditions entre les deux. C'est-à-dire, l'auteur célèbre peut aussi se servir de toute sa notoriété pour... définitivement mettre à terre une ancienne rivale qui, elle, n'a pas du tout le même accès aux médias, ni même une voix pour se défendre.
Oui, ça a été jugé notamment pour Christine Angot, par exemple, qui parle l'ex de son compagnon dans un livre après et se fait poursuivre après avoir été déjà poursuivi une première fois et avoir signé un accord transactionnel avec la même personne, donc s'est engagé à ne plus recommencer.
C'est une récidiviste. Là.
Et là, c'est non seulement c'est à la fois récidiviste et assez suicidaire, et ça s'est d'ailleurs traduit par des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts à l'encontre de l'auteur. Ce qui est intéressant, c'est que on peut considérer donc que le cadre n'est pas nécessairement le bon pour juger les écrivains parce qu'il est en quelque sorte un peu biaisé. Hein. Il est conçu pour d'autres médias et d'autres temps que ceux de l'écriture. Et puis en même temps, regarder avec intérêt, ce qui moi je regarde un tout petit peu de plus près, le montant de dommages et intérêts qui sert de curseur pour voir si le juge a... Au-delà de est-ce que c'est un écrivain ou pas un écrivain, et il ne peut pas s'en défaire parce que le juge est obligé, s'il y a diffamation ou vie privée, de rentrer en voie de condamnation, comme on dit chez moi. Dans ce cas, il a la seule loisir, on va dire, de taper fort ou de donner ou de condamner à 1 euro de dommages et intérêts qu'on appelait symbolique, mais la symbolique est inversée. Aujourd'hui, ça n'est plus 1 euro qui est considéré comme problématique, c'est plutôt 50 000 euros qui seraient des dommages et intérêts symboliquement forts. Donc c'est intéressant de voir que certains s'en sortent avec quasiment les honneurs du tribunal. C'est d'ailleurs le cas parfois, hein, 1 euro ou à peine une pichenette ou une publication très légère, et puis d'autres en revanche sont à Philippe Besson à propos des parents du petit Grégory, condamné à plus de 50 000 euros. Christine Angot, on est dans des voisinages, on est dans des parages avoisinants.
Et La Belle et la Bête de Marcela Yacoub aussi. Mais n'est-ce pas la mesure des profits commerciaux qui sont attendu par des publications de ce type? Parce qu'on obtient, on observe deux cas de figure. Une personne pas très connue qui écrit une histoire très salace, parce que ça intéresse toujours le public, et un peu violente, sur un personnage en revanche très connu, ou bien un personnage, un auteur déjà très confirmé, très connu, qui écrit un roman directement inspiré d'une histoire avec une personne peu connue. Mais on voit quand même rarement des personnes pas connues qui écrivent une histoire très intime sur une autre personne pas connue. Ça, c'est pas du tout un rémunérateur.
Dans l'affaire Angot, une remarque des juges, dans leurs attendus, qui disent que, parce que c'était un des arguments de défense de Christine Angot, était de dire « mais cette dame a parlé dans la presse ». Cette dame qui m'attaque, elle-même, après avoir signé un protocole transactionnel, a dit que mon livre était scandaleux. Donc on reprochait, Christine Angot reprochait à cette ancienne rivale, en quelque sorte, on va la nommer comme ça, d'avoir elle-même, inconnue, voulu donner une interview au Nouvel Observateur.
Mais en l'occurrence, elle défend la liberté d'expression.
Oui, ce qui est formidable, c'est que les juges l'ont envoyé tacler, et s'en l'ont taclé, et l'envoyaient balader en lui disant non, c'est un argument totalement inopérant, et même là, pour le moins, contradictoire avec tout ce que vous nous dites. Voilà. Donc il y a une forme, peut-être pas de morale, mais la justice arrive par moments, quand elle se penche avec un peu d'intelligence, à donner des indications un peu plus intéressantes sur ce que devrait être une littérature, on va dire, un peu consciente.
Alors, nous allons en arriver, puisque les juges, maintenant, s'improvisent, parce que je crois qu'ils travaillent énormément, mais enfin, se trouvent en position des critiques littéraires. Alors ça, c'est un événement tout à fait nouveau. Mais avant d'en arriver à cela, aux arguments qui sont mis en avant dans les décisions de justice, ne peut-on pas dire, ça paraîtra peut-être relevé d'un âge bien révolu, mais que lorsqu'une personne a une relation très intime avec une autre personne, qui est, on peut l'espérer le plus souvent, même basée sur la confiance, que des propos s'échangent, que des confidences se font, qui touchent au plus secret des êtres. Alors évidemment, aucun contrat, aucune clause de confidentialité n'est signée, enfin pas encore, peut-être que ça arrivera dans un nouvel âge des rapports humains. Mais qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir comme une trahison, en tout cas du lien humain, lorsque toute cette matière qui a nourri une relation vraie et confiante se trouve exhibée et donnée en pâture au grand public.
Oui, c'est vrai. Il y a des exemples où la justice a réagi avec une fermeté qui permet de montrer qu'elle a vraiment considéré que la ligne ultra rouge était franchie. Il y avait notamment, avant que toute cette vague dite d'autofiction ne se déverse véritablement, il y avait déjà des petits indices. Il y a eu un livre de Christophe Donner. Sur Paul Ricoeur.
Oui, sur Olivier Ricoeur.
Olivier Ricoeur, pardon. Enfin, le fils de. Mais bon, ça concernait, on va dire, la famille de Paul Ricoeur, pour simplifier pour nos auditeurs, et qui a été retiré, même pas sorti d'ailleurs sur le marché, je crois.
Le nom a été effacé.
Enfin, en tout cas, c'est un livre qui a disparu, entre guillemets. Il y a quelques cas comme ça. Ils sont peut-être. Pas si nombreux malgré tout. Et là où c'est compliqué, c'est peut-être, je parlais tout à l'heure des dommages et intérêts qui servent de cadre, qui sont, paraît-il, moins pires que les interdictions, je n'en suis pas sûr. Et donc je m'interroge toujours sur 50 000 euros de dommages et intérêts, c'est 10 fois 10 livres à fabriquer, le coût de fabrication de 10 livres. Donc c'est pour un éditeur et pour un auteur des sommes extrêmement importantes à l'aune de l'économie de l'édition. Il y a peut-être quelque chose également à repenser dans le cadre qui est laissé au juge comme instrument entre eux. Et c'est vrai qu'ils sont souvent tentés d'aller vers les dommages et intérêts pour ne pas donner l'impression, parce que les juges sont en quelque sorte, doivent répondre aussi devant tous les concitoyens de leur attitude, et ils essaient de ne pas aller vers la censure, puisqu'immédiatement le grand débat qui sous-tend tout de suite, c'est vous êtes des censeurs et vous en prenez à la liberté d'expression. Ce qui montre bien que tout ça est très compliqué, d'autant plus que c'est jugé entre deux affaires concernant des diffamations commises ou supposées commises par Le Point ou Le Figaro dans la 17e chambre correctionnelle de Paris. Et on demande au juge de bien vouloir d'un seul coup stopper et s'intéresser au cas d'un écrivain.
Merci Emmanuel Pierra pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Cédric Châtelu qui était à la technique. Et merci à Marie Dalquier.
De ta province, tu rêves au prince, il dort le mari qui t'a donné son nom. Emma Bovary, pour qui es-tu jolie? S'en va la vie, mais qu'un seul jour est long. D'autres font de beaux voyages, toi tu fermes tes volets, et tes amants de passage sont des étrangers qui t'ont blessé. Emma, dans la nuit, quand elle devient tendre, tu crois entendre les pas du seul ami, et celui-là. dans la nuit. Non, ce n'était personne. Si tu frissonnes, c'est à cause du vent.
La semaine prochaine, nous parlerons des écrits, lettres et analyses qui ont été récemment publiées, de Georges Pompidou, qui ont été récemment publiées avec Eric Roussel. Tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.